Vous êtes toujours dans Radio Zone Onde Femme 93.8 et cet après-midi dans Remue-Ménage, nous parlons de la vie monacale des monastères des Visitandines, en particulier du monastère de Voiron dans l'Isère et d'un monastère qui a existé à Thonon, aussi des Visitandines, et d'une recherche, d'un reportage effectué par Madame Françoise Sautier et d'une recherche effectuée par Anne Ranqui. Alors, tout de suite, à toutes les deux, j'ai envie de demander, bien sûr, comment vous avez procédé pour faire votre travail. Parce que, aussi bien prendre des photos que vous renseigner sur le mode de vie de ces femmes nécessite une approche très particulière. Parce que ces femmes, disons-le tout de suite, l'ordre de la visitation est un ordre contemplatif. Donc, il y a des règles de vie particulières et surtout qui consistent à être plutôt recueillies et dans la prière, mais pas dans un contact très fort avec l'extérieur, même quasi inexistant, comme vous le disiez. Pour les femmes de Thonon, elles ne connaissaient pas les gens à l'extérieur. Donc, approcher ces femmes, rentrer dans leur vie, doit représenter une série de difficultés que vous avez dû surmonter. Alors, Madame Sautier, vous disiez tout à l'heure, certaines ont posé, certaines ont levé la tête, etc. Mais finalement, comment s'est passé ce reportage?
En 59.
Ça, c'était en 59.
Ça s'est passé d'une façon absolument simple. J'étais tout à fait naïve et innocente. On m'avait demandé de photographier des murs. Je l'ai fait quand la mère m'a permis de photographier des sœurs, pour mon plaisir, j'ajoute. Eh bien, j'ai photographié les sœurs, mais vraiment pour mon plaisir, sans problème. J'ai pas pu faire, si vous voulez, à Voiron, j'ai pu aller beaucoup plus loin. Mais là, il faut que j'explique que j'ai eu à Voiron une chance supplémentaire, étant donné mes excellents rapports avec la mère supérieure. Et toutes les difficultés qui auraient pu se présenter ont disparu grâce à ces contacts. Dans ce monastère, il y a par exemple une hostellerie dans laquelle j'étais supposée habiter. Eh bien, on me donna beaucoup mieux, c'est-à-dire une très belle chambre donnant directement dans la clôture, où je fus reçue, et je fus reçue en somme par toutes, comme la très bienvenue en ces lieux.
Donc vous partagez leur quotidien, leur vie quotidienne.
Je partageais absolument leur quotidien, et à ma convenance, c'est ce qu'il faut relever, c'est la liberté qu'on m'a laissée dans ce monastère. Il n'y avait pour moi, au fond, qu'un seul impératif. Il fallait que je sois à l'heure pour les repas. Et donc, dans leur réfectoire, avec elles, je mangeais la même chose, j'avais une chaise en face, il y avait des tables qui se faisaient vis-à-vis et le silence était naturellement, non pas seulement recommandé, mais exigé. Mais enfin, les sourires d'une table à l'autre n'étaient pas interdits comme en 59, où en 59, on ne m'a pas invité à la table du réfectoire, d'abord. Il y a quand même des différences. Il y a eu 32 ans d'écart entre les deux reportages. Et si vous voulez, ma vie a été plus limitée à Thonon parce que c'était quand même... on suivait la règle de beaucoup plus... on suivait la règle de beaucoup plus près, mais on était plus rigide, plus rigoriste, si vous voulez.
En tout cas, ça se sent très bien dans vos photos. Je crois qu'on peut voir très, très bien la différence de mode de vie. En tout cas, une rigueur bien plus grande émane des photos de Thonon.
Oui, à Thonon. Et puis, en fait, à Thonon, j'y suis restée beaucoup moins longtemps, si vous voulez. Je ne faisais pas partie de la... Par qui, c'est beaucoup dire, mais je n'étais pas au centre, si vous voulez, de la communauté. Là, j'ai quand même, j'étais absolument libre d'aller, par exemple, ou de ne pas aller aux offices, et libre de me promener où je voulais pour photographier les religieuses dans toutes leurs activités. Oui, ça c'est sûr, mais j'étais admise partout. Il y a vraiment très très peu d'endroits où on m'a dit non, là c'est porte close. Je ne peux pas exactement vous dire, peut-être que Anne pourra vous le dire. Elles avaient des réunions dans une certaine pièce de une salle.
Je pense que c'est les coulpes à la salle Saint-Raphaël.
C'est possible. Oui. Alors quand elles faisaient des réunions de ce genre, moi elles ne voulaient pas que des réunions entre elles très sérieuses. Je ne peux pas vous dire ce qu'elles racontaient puisque je n'étais pas admise. Mais là, on ne me voit voulais pas, mais c'était exceptionnel. Partout, j'ai pu aller partout dans ce monastère et vivre en quelque sorte la même vie qu'elle. Alors ça, c'était tout de même une chance extraordinaire. Alors ce que je voudrais vous expliquer, c'est la manière dont j'ai procédé quand même pour faire ces photos, parce que ça a été à voir rond très difficile. Et je veux expliquer pourquoi plusieurs de mes photos sont floues. Parce que, d'abord pour moi, dans ce reportage si particulier, c'est l'instant et le geste à saisir au vol qui ont compté, avec évidemment toutes les mauvaises surprises que cela implique. De plus, par respect pour les religieuses et les lieux, j'avais pris la décision irrévocable de travailler sans pied, sans projecteur, sans les dizaines de mètres de fil électrique habituel, sans ce matériel indispensable aux professionnels mais encombrant, faussant les valeurs, troublant et dérangeant les personnages. J'ai dû me servir quelquefois du flash, mais seulement dans les cas désespérés. De même, je m'étais interdite de leur faire répéter leurs gestes ou n'importe quelle autre séquence comme le font les vrais photographes amoureux de la perfection photographique. Ajoutez à cela ma propre gêne de pratiquante, de catholique fervente, à circuler en large et en travers sous les yeux du prêtre et démonial pendant les offices. Vous verrez à Conches des photographies où j'ai pris vraiment les sœurs à genoux, les yeux fermés, mais vraiment je les ai prises sous le nez. Et j'étais très malheureuse d'être obligée de le faire.
Donc vous n'aviez pas de téléobjectif ?
Mais je n'avais pas. Mais non, je vais vous le dire plus loin, j'avais un vieil appareil photo qui avait 40 ans, mais qui était réputé pour le noir et blanc, puisque j'avais opté pour le noir et blanc pour qu'il y ait continuité entre le premier reportage et le deuxième reportage. Et je dois dire que ce pauvre appareil tenait avec des élastiques et des ficelles, n'avait absolument pas de cellules, comme je suis pas très jeune. J'avais encore une loupe par-dessus le marché pour fixer mieux le sujet, et que ces bonnes sœurs qui étaient censées ne pas me regarder, qui ne me regardaient pas d'ailleurs, qui ne me regardaient pas, ne savaient pas ce que je faisais dans mes déplacements, ces bonnes sœurs bougeaient sans arrêt quand j'avais réussi à mettre au point mon appareil. Ça a été vraiment un cauchemar pour moi de les prendre en photographie dans le cœur, parce que c'était mon problème essentiel. C'était de les prendre dans le cœur à la prière. Et il n'y avait point de lumière dans ce cœur. C'était vraiment sombre. Et vous verrez, les photos sont sombres. Et en réalité, je crois qu'elles donnent mieux le sens de leur prière, précisément. Donc je dis avec des éclairages atténués en demi-teinte, voulu sans doute pour faciliter un climat de disponibilité intérieure, mais donc un vrai casse-tête pour moi qui devais recréer l'image. Alors tout cela, je vous le dis, pour vous demander de comprendre que, voulant cerner la vérité au plus près, mes photos sont vraies, mais vu les circonstances, lumière, appareil, élastique et tout ce que vous voulez, elles sont imparfaites. Alors je vous demande, à ceux qui verront cette exposition, d'être indulgents.
Je crois qu'ils seront surtout très intéressés, et parce que moi je n'ai pas remarqué ces choses-là en regardant vos photos, Madame Sautier. Au contraire, je me suis demandé à plusieurs reprises, mais comment vous aviez pu circuler au point que les femmes n'ont vraiment pas l'air de vous remarquer.
Hein,
on sent qu'elles continuent à vivre. Alors bon, c'est peut-être lié effectivement à leur ferveur, à leur vie habituelle contemplative, où elles ne se laissent pas déranger facilement par quelqu'un qui peut peut-être circuler.
Oui.
Mais ça devait être quand même très inhabituel. Il ne doit pas y avoir souvent des gens qui circulent chez elle. Donc, vous étiez à la fois quelque chose d'inattendu et peut-être de quelque chose auquel elles sont habituées parce qu'elles ne se laissent pas déranger.
Oui. Il faut que j'ajoute quand même quelque chose. C'est que dans ce deuxième reportage, ayant eu, si vous voulez, l'expérience du premier, j'ai tenté l'impossible. C'est-à-dire aller au plus profond de la sensibilité et des sentiments de Sémonial pour y découvrir et donc le révéler aux autres, ce que peut représenter une foi en Dieu aussi totale, aussi exigeante et si difficile à comprendre pour nous autres, chrétiens et laïcs tout à la fois.
Alors, Madame Sautier, je vous remercie. J'aimerais bien qu'on découvre la méthode de travail d'Anne Ranqui aussi, avant que nous n'entrions dans peut-être une deuxième partie de notre conversation qui consistera à parler réellement de la vie de ces femmes. Parce que, bon, le titre, on le disait tout à l'heure, de l'exposition est très provocateur, vise inutile. Mais en tout cas, vous avez eu l'occasion toutes les deux de vivre à un moment donné avec elles. Donc, vous vous êtes fait votre propre image de cette inutilité ou de cette utilité. Et j'aimerais bien que nous en parlions. Alors, Anne Ranqui, vous, comment vous avez pu travailler? Parce que vous n'avez pas pris de photos, vous avez dû leur parler, j'imagine, forcément.
Disons que j'ai eu des contacts privilégiés avec certaines sœurs, mais je n'ai pas fait d'interview. Je n'ai pas interviewé comme on a l'habitude de le faire avec un micro, etc. D'abord, je suis partie, étant donné comme le fait que j'avais été projetée dans cet univers sans vraiment avoir d'idées préconçues dessus, puisque j'avais pas un intérêt avant, ni j'avais pas énormément lu, si ce n'est les clichés de Madame Sautier que j'avais vus, et puis les livres sur Saint François de Sales, qui est en fait ma référence. Et puis, lorsque je suis partie là-bas, eh bien, tout ce que je pensais connaître et savoir, enfin, la règle de vie, hein, c'était parce que surtout on insiste, nous, beaucoup, parce qu'on ne vit pas dans ce monde-là, sur la règle de vie, les constitutions. On se dit, bon, ça planifie temps après temps la vie des religieuses.
Donc les constitutions, c'est le règlement, en quelque sorte.
Voilà. Alors la règle de vie, c'est la règle de saint Augustin, c'est une règle très spirituelle. Qui conseille, c'est une espèce de chemin de conseil pour arriver à une meilleure union avec le divin. Et puis il y a les constitutions, alors ça c'est très pratique, c'est saint François de Sales qui les a établies au fil de l'expérience, de la vie communautaire qu'il a eue avec ses filles à Annecy. Et puis, donc, moi, je me suis basée là-dessus. Je me suis dit, ça va tout m'expliquer. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, j'étais très, très déroutée parce que tout ce que je pensais voir, eh ben non, ça n'était pas. En fait, c'est une suite d'impressions qui, justement, ressort très bien dans les photos de Madame Sautier, d'impressions, de ressentir qui nous envahit. Et c'est d'abord, c'est vrai, c'est l'aura religieux qui nous prend tout entier. Donc, du point de vue de la méthode sociologique, si je peux dire ça, c'est uniquement une intuition au départ que j'ai suivie. C'est simplement c'est mes sens qui m'ont dicté mon parcours durant le premier séjour. Donc durant le premier séjour, j'avais juste un cahier et je notais tout ce que je voyais. J'ai participé à toute la vie religieuse qui m'était donnée de voir. Hein. Bon, donc comme Madame Sautier, j'ai pas eu accès à cette salle où il y a les coulpes, mais ça c'est tout à fait normal. Et on sait que quand on fait un travail comme ça, qu'on va pas avoir accès à ce genre de réunion, puisque c'est comme dans une famille où les amis ne sont jamais conviés au lavage du linge.
Hein. Voilà.
Donc voilà, ça s'est passé comme ça. C'est que et puis après, bon, évidemment comme j'étais là pour un travail, il a fallu que je reprenne quand même mes intuitions et puis que je rende ça un petit peu plus scientifique.
Vous êtes retournée deux autres fois, donc en
voilà,
tout trois
oui.
séjours.
Trois séjours. Oui. Premier séjour où justement j'ai fait cette approche très sensitive qui m'a bouleversée. Je dois dire que c'est pas. Moi, je suis pas trop religieuse, donc c'est vraiment c'est tout ce côté de l'aura religieux qui m'a profondément envahie, c'est vrai. Le sentiment de liberté que moi j'ai redouté. Je me suis dit oulala, je vais être enfermée pendant trois jours dans un espace limité et tout. Et je pensais que ça allait être difficile. Et au contraire, hein, et je crois que Mme Sautier aussi. Hein,
ah,
une
oui.
fois, on en avait parlé. C'était
oui, oui.
vraiment.
Moi, j'ai été très très heureuse dans ce monastère.
Et justement, la liberté, elle est toute entière. C'est une liberté
oui, oui.
qui est vraiment où on lit. Elle respecte la personne humaine.
Absolument.
Et ça, c'est très important. Et ça, c'est vraiment saint François de Sales dans ses textes. Bon, j'ai aucune connaissance des autres ordres religieux. Mais dans ses textes, vraiment, l'amour de l'homme est très présent. Et les visitandines de Voiron, actuellement, elles sont très, très proches de saint François de Sales et vivent vraiment au quotidien l'amour des hommes.
Saint François de Sales, c'est 1610, si je me rappelle
oui.
bien ce que j'ai lu dans l'exposition.
Voilà, c'est la fondation.
Donc c'est très ancien.
Hein,
oui.
Ouais. Oui, ça vient quelques siècles déjà.
Et donc, on retrouve dans les règles de vie de ces femmes des propositions qu'avait faites Saint François de Sales à cette époque-là.
Oui, de plus en plus. Depuis le Concile Vatican II, vraiment la vie s'est un peu dépoussiérée de ces petites traditions dont elle parle, qui sont par exemple la sacralisation de la mère, le rituel très lourd qui a eu un certain temps dans les couvents, le repli sur elle-même. Alors que là, Saint François de Sales, depuis le départ, disait qu'une des conditions sine qua non à l'évolution d'un couvent, c'était le rapport à l'extérieur. Elles sont là pour s'unir à Dieu, mais elles sont là aussi pour aimer les hommes. Aimer Dieu, c'est l'aimer dans son humanité comme dans sa divinité. Donc ces deux côtés de la vie religieuse, elle le pratique pleinement. Donc par exemple, quand on dit oui, elles étaient quand même pas, on peut pas parler qu'elles étaient effarouchées de vous voir venir avec un appareil photo parce qu'elles ont l'habitude d'avoir
maintenant,
des contacts. Oui,
maintenant,
oui.
Pas avec, en 59.
Ah non, parce qu'en 59, elles étaient encore sous le régime avant Vatican II. Donc elles étaient encore très repliées sur elles-mêmes. C'est le début, c'est la guerre qui avait commencé à les ouvrir. Et puis il y a certaines communautés, encore actuellement, même à la visitation, sont encore très repliées sur elles-mêmes. Je sais que les communautés italiennes du sud de l'Italie sont très très à cheval sur des principes de vie qui n'ont même pas sans doute été établis par François de Sales, mais simplement c'est une espèce d'empoussièrement au fil des siècles qui s'est passé, et puis elles se replient sur elles-mêmes. Tandis qu'à Voiron, alors c'est une communauté très ouverte sur l'extérieur, et vraiment très à l'écoute de son prochain, comme on dit. Elles ont une grande famille laïque et autour d'elles, et des réunions, par exemple. Juste pour citer un exemple, pour être un peu concret, le dimanche après la messe, on a le goûter sur la pelouse. Trois sœurs sont... Oui, c'est un café, ouais. Hein. Café, croissant. Non, il y a des tartines pour les enfants et tout. Et puis, il y a tous les laïcs qui le désirent, qui viennent discuter avec trois sœurs qui sont là pour parler avec les fidèles, en fait. Pour justement montrer le lien avec la société. Donc, elles sont très imbriquées dans la société. C'est vrai que, comme le disait Bernard Créta, c'est une micro-société. Hein. C'est quand même, s'il y a ses règles et tout. Mais moi, je pense que si c'est une micro-société, c'est parce que la première valeur, c'est justement cette gratuité dont il s'est parlé, le don de soi.
Donc vous n'auriez pas l'idée, vous, en parlant de ces monastères, de dire, comme le dit Erwin Goffman, qui est cité quasi à l'entrée de l'exposition, que les monastères font partie des saintes institutions totalitaires propres à notre société, et ceci à côté des casernes, des camps de travail, des prisons, des camps de concentration, des sanatoriums, des hôpitaux psychiatriques, des léproseries, des foyers pour aveugles indigents, et j'en passe dans la longue liste qu'il cite.
Non, là, je crois que j'ai écrit 250 pages, et je crois que les 250 pages m'ont amené à une conclusion d'une page qui justement disait que non, j'ai absolument pas eu affaire à une communauté totalitaire, hyper hiérarchisée. Non, rien du tout. Elles ont tout pouvoir de gérer l'espace dont elles disposent. En plus, on parle d'un espace limité, mais disons qu'il y a l'espace palpable comme ça, mais il y a cette liberté intérieure que chaque jour, elle s'exerce à grandir, justement. Parce que c'est aussi une condition d'aller vers le divin, c'est de s'ouvrir toujours plus à cet espace. Et voilà, donc, non, alors absolument pas.
Madame Sautier, non plus.
Alors, moi, je vais vous dire l'impression que j'ai eue. C'est qu'une communauté dans laquelle j'ai vécu, j'ai fait plusieurs séjours à Voiron, à l'intérieur de la clôture, pour moi, c'est en quelque sorte une espèce de reconstitution de la famille. Je ne sais pas si Anne le voit de cette façon. On y trouve de la fraternité, de l'amitié, de la chaleur humaine, de l'entraide et un encouragement permanent à poursuivre la route. Comme dans toutes les familles, on y trouve aussi des conflits. Et je dois dire que j'ai assisté un jour à un échange verbal un peu houleux entre la supérieure et une moniale qui ne voulait pas céder et le disait assez fortement. Mais il ne faut pas oublier que leurs règles leur demandent en tout premier lieu l'obéissance, plus la chasteté et la pauvreté, mais dans le cas présent, c'est l'obéissance qui a triomphé.
Alors nous allons peut-être parler très précisément de ces règles de vie, parce que c'est là qu'intervient la provocation de Monsieur Créta, et ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous, vous en pensez, mais je vous propose de nous laisser embarquer par la voix magnifique de Meredith Monk pour nous laisser une petite pause. Alors parmi les phrases provocatrices, s'il en est, que Bernard Créta nous propose autour de la vie de ces femmes, il en est bien sûr quelques-unes qui concernent les grands principes de la vie monacale. Par exemple, la pauvreté. J'en cite quelques-unes. Voilà ce que M. Créta écrit à propos de la pauvreté. « Mais comme c'est facile quand la communauté vous prend en charge et qu'on ne manque de rien. » Ou bien celle concernant la fraternité. Fraternité, point de suspension, ou tyrannie du groupe, ou groupe refuge, ou angoisse d'assumer sa propre solitude. La communauté. À quoi peut bien servir ce groupe coupé du monde, si ce n'est à attiser la jalousie, cruauté et passion autour de petits riens ? À propos des règles. Ne serait-ce pas un vieux reste de tradition monastique destiné à servir de béquille à des êtres faibles ? L'obéissance, dont vous parliez, Madame Sautier. La grande aventure de la liberté a-t-elle quelque chose à gagner avec l'histoire de ces femmes soumises et dominées ? À propos du travail. Ce sont des privilégiés, des inutiles, des improductrices pour la société, car elles ne recherchent que leur entretien. Clôture. Que faut-il donc pour qu'une femme en arrive à s'enfermer derrière une grille ? De quoi, de qui a-t-elle peur ? Alors, je crois qu'il y a déjà là de nombreuses propositions. Ah oui, je voulais vous lire encore celle concernant le silence. Le silence, point de suspension, au moment où l'ordre est à la communication. Et si ce silence couvrait toutes les hypocrisies ? Chasteté, aussi question, je crois, qui intrigue beaucoup de gens. Donc, contre le plaisir, sont-elles encore des femmes ou des femmes mortes ? À moins que quelques perversions secrètes n'habitent ces murs austères. Alors, on pourrait encore en citer beaucoup d'autres. Je dois dire que je me suis penchée aussi sur le livre qui est signé par les visiteurs et les visiteuses de l'exposition. Et alors là, j'ai été surprise, oui et non, mais d'observer que bien sûr, les gens sont extrêmement partagés. Les uns trouvent que ces petites phrases provocatrices sont des scandales purs et simples. D'autres trouvent que parfois, c'est des bonnes questions qui sont posées. Tout le monde évoque parfois le problème de la tolérance, de l'intolérance, de la sécheresse des propos. Et certains se questionnent par exemple sur la compréhension des provocations. Est-ce que vraiment les gens comprennent ce que les provocations ont voulu susciter ? Et alors, bon, j'aimerais bien savoir évidemment ce que vous, vous en pensez. Parce que toutes les questions qui sont posées là par Bernard Créta, je ne suis pas sûre qu'il les pose en répondant oui à tout ce qu'il dit. Je crois qu'il y a l'idée, effectivement, de faire ressortir les questions qui habituellement ressortent par certaines personnes lorsqu'on évoque la vie monacale. Bon, il interroge les femmes en particulier, puisque vous avez fait vos reportages et vos enquêtes parmi ces, dans ces deux couvents de femmes. On sait qu'on pourrait certainement poser les mêmes questions aux hommes qui vivent dans les monastères. Mais je crois qu'il est sûr que les gens sont aujourd'hui intrigués par ce qui se passe derrière les murs d'un monastère et qu'il y a un grand nombre de questions que les gens se posent. Comment fait-on pour choisir d'aller là ? Comment renonce-t-on à la vie à l'extérieur ? Est-ce un renoncement ? Est-ce qu'on est mieux quand on est dedans le monastère au lieu d'être à l'extérieur dans le monde que l'on connaît avec les déchirements, les divisions, les intolérances et les misères de ce monde ? Toutes ces questions, je suis persuadée qu'effectivement les gens se les posent. Peut-être pas aussi de façon si provocatrice que les poses de Bernard Créta, mais certainement il se les pose. Alors, quand vous avez rencontré ces femmes, soit par la vie que vous avez eue avec elles, soit éventuellement les échanges que vous avez pu avoir avec elles, qu'est-ce qu'elles vous disent ou qu'avez-vous ressenti par rapport à toutes ces questions-là ?
Bon, moi je pense que Bernard Créta, il a écrit et posé toutes ces questions pour remuer l'opinion publique. Parce que c'était délicat quand même, à Genève, de faire une exposition sur des nonnes cloîtrées dans une ville qu'on appelle volontiers la Rome protestante et d'attirer du monde par une exposition de photos à l'extrémité de Genève, c'est-à-dire à Conches. Alors il a voulu vraiment remuer l'opinion publique et il fallait, si vous voulez, la matraquer un peu, cette opinion publique. Il y est arrivé parfaitement parce que tout le monde s'intéresse maintenant à cette exposition par réaction contre ce qu'il a dit. Et voilà, à mon avis... C'est ton avis, toi ?
Oh ouais, tout à fait. Hein ?
C'est bien ton avis, oui, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je n'ose pas trop lire ce qu'il a écrit parce que ça me, si vous voulez, ça me trouble et puis ça me fâche un peu. Mais je pense qu'il a eu quand même raison de se comporter de cette façon pour pouvoir attirer du monde. Et quand les gens sont là devant ces photos, je pense qu'ils oublient peut-être un peu les phrases terribles que Bernard Créta a prononcées. Hein? Je pense que quand même, il y a une opposition entre les photos. Je ne sais plus quel journaliste a dit qu'elles étaient douces et tendres. Mmh. Et lui, il a des propos plutôt cruels. Mais je crois qu'il a eu raison s'il voulait amener les gens à constater sur les photos ce que sont vraiment des nonnes dans leur vie journalière, il me semble. Alors, moi, je dis que ces femmes qui sont jeunes... qui ont une vie devant elles plus ou moins remplie de tentations diverses et de joies terrestres possibles, parce que pour elles, dans le sillage de Saint-François de Sales, être utile au monde, c'est d'abord être des témoins du Christ et pour ce faire, prier pour ceux qui croient en la prière, pour ceux qui n'y croient pas, pour ceux qui voudraient bien y croire, mais ne savent pas comment s'y prendre et n'osent pas le faire.